Balado Gazette, la plateforme de diffusion de création radiophonique vous propose Culture 5. Bernard Laurent, c'est à vous.
Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 14 janvier 2022 et l'éditorial du jour est signé Édouard Jouan. Dans cet éditorial, vous allez le voir, il fait référence à certaines paroles du chef de l'État qui ont, disons, choqué. Mais écoutons plutôt ce que Édouard Jouan nous a écrit. L'indignation créée par la défécation verbale du chef de l'État en dit long sur le niveau de notre débat dans la gestion du tsunami viral qui submerge notre quotidien et en dit long également sur le ton que va prendre la campagne présidentielle. En tombant, cette déjection de trône a fait beaucoup de bruit dans une mare médiatique friande de ce type de royal cadeau et toujours prête à en faire soit une tartine, soit tout un fromage. De plus ou moins bon goût, vous en conviendrez. C'est devenu courant et très recherché, le moindre écart de langage de nos dirigeants provoque une levée d'invectives stigmatisant leur imprévoyance, leur incompétence viscérale et l'inadaptation d'un discours officiel qui ne serait pas à la hauteur de la crise actuelle. Chaque fois, c'est « haro sur le baudet, ce pelé, ce galeux dont viendrait tout le mal », fermez les guillemets. C'est ce que disait La Fontaine. Comment une sommité de l'État peut-elle se permettre un niveau de langage aussi incongru et choquant chez le détenteur de la fonction suprême? Comment ce qui aurait pu être audible dans la bouche d'un Jacques Chirac serait-il devenu insupportable dans celle d'un Emmanuel Macron? À vous de voir. On nage dans l'univers ridicule du qu'en dira-t-on, plus soucieux en apparence seulement de la forme que du fond. Enfin, comment un président de la République peut-il employer des formules aussi scabreuses et indignes de sa fonction? N'est-il pas de son devoir de jouer d'un vocabulaire et de périphrases châtiées, de courbettes et de salutations en accord avec sa jupitérienne position? Dans ce même temps qu'on peut qualifier de bien-pensant, où il est courant de pointer du doigt sa suffisance, son arrogance, voire son mépris du bas-peuple, il est quand même étonnant de constater qu'on lui refuse ce petit plaisir de quitter, de temps en temps, cette haute sphère tant décriée pour venir patauger dans la boue plébéienne. Les grenouilles que nous sommes veulent bien d'un roi, elles en rêvent, que dis-je, elles en raffolent, à l'image de nos voisins d'outre-Manche, mais ces cocasses, elles nous interdisent de coasser librement. Reconnaissons pour finir que cette malencontreuse formule qui a tant heurté les puristes, étant provoquée de vagues et de remous dans le microcosme politico-médiatique, eh bien cette malencontreuse formule a au moins le mérite d'être à l'unisson du ras-le-pot d'une majorité de nos concitoyens exaspérés, consternés par l'obstination d'un petit nombre à refuser cette vaccination qui, si elle n'a pas le pouvoir d'empêcher d'attraper le ou la Covid est mondialement reconnu comme le seul moyen d'endiguer la vague qui assaille les urgences de nos hôpitaux et de préserver notre capacité à soigner ceux qui en ont besoin. Voilà, c'était l'éditorial d'Édouard Jouan. Et bienvenue dans ce Culture 5 où nous écouterons Jean-François Rechner, Hervé Richoux. Et nous ferons connaissance avec une nouvelle recrue dans l'équipe. Je veux parler d'Elisabeth Catala, dite Tante Elisabeth. Et le solo de batterie est signé Arnaud Lechantre du Joe Quartet de l'ami Johan Lefebvre, qui nous servira en guise de dessert sa capsule de jazz consacrée aujourd'hui à Bill Evans. Mais sans plus attendre, retrouvons Jean-François qui va nous parler d'éthique et d'éthique.
Mes sœurs et frères en humanité, à qui j'ai le bonheur de compter sur cette balado-gazette ce qui passe par ma tête, je vous parle d'un défaut qu'à foison aujourd'hui notre société produit larga manu plus qu'il n'en faut. Alors qu'elle devrait être régie par déontologie et respect de l'éthique, il semble que ce soit les tics et manies qui la dominent. Je le dis, ça me mine. Exempt d'onychophagie, mais pas toujours d'adéphagie, victime de graphomanie non permanente ni galopante, je pense ne pas suivre la pente de la trichotillomanie ni de la nymphomanie. Toutefois, à mon âge, l'éthique de langage émaille ma parole. Je ne trouve pas ça drôle. Ce défaut que je pointe du doigt ne touche pas que moi. Nous sommes nombreux, je ne suis pas le seul. Ce n'est pas un coup de gueule. Ça ne me rend plus malheureux. J'ai trouvé une parade pour éviter les algarades liées à ce petit travers. En prose et non en vers, je vais prononcer un discours, rassurez-vous, je ferai court, uniquement composé de ces tics. Je sais, c'est osé. Écoutez, à vrai dire, n'est-ce pas En fait, du coup, alors il me dit, effectivement, c'est pas, ouais, génial, trop fort. Alors j'y dis, c'est dans mon ADN. Bon, c'est trop. Mais enfin, c'est bien. Alors, moi, je... Et puis, le mec, là, ma foi, et patati, patata, machin, truc, carrément grave, j'avoue. Genre, voilà, et tout. Genre, super, hyper, hyper, par le fait, en mode, ça fait sens, tu sais. Tu vois quoi? Alors, je vais vous dire en vérité. Par contre, je te dis pas. Tu vas rire. D'un autre côté, je te ferai dire, ma pauvre, moi, je, au jour d'aujourd'hui, carrément. Et puis, c'est pas tout ça. Enfin, je dis ça. Je dis rien.
Oh,
C'était Jean-Louis Bergère, Jean-Louis Bergère qui nous manque beaucoup, mais en voici un maintenant bien vivant qui ne rate pas une occasion de partir à l'aventure. C'est bien sûr Aristide, alias Hervé Richoux.
Aristide regarde cette scène dans laquelle Aldo Macchione, Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner et Charles Gérard adoptent sur la plage une démarche on ne peut plus ridicule, censée faire tomber les filles en pamoison et dans leurs bras. C'est un film de Claude Lelouch qui date de 1972. Cinq grands dadais jouent les truands, détournent un avion, enlèvent un chanteur, puis un ambassadeur suisse, puis un révolutionnaire sud-américain, et enfin kidnappent rien moins que sa sainteté le pape. Nos criminels canailles réclament alors pour le remettre en liberté un franc par catholique, ce qui représente une coquette somme que l'on peut arrondir après un rapide calcul à la rançon de la gloire. 50 ans ont passé. 4 de ces aventuriers, si riches fussent-ils, ont fini fauchés, au même titre qu'a disparu la gouaille, l'insolence et l'humour que, sur le grand écran, ils partageaient avec nous en se moquant d'eux-mêmes. 50 années ont passé en Amérique du Sud où se font et se défont toujours les révolutions. 50 années ont passé et la Suisse est toujours un pays neutre, montagneux, où les bons comptes font les bons amis et où on fabrique du bon chocolat. 50 années ont passé et les terroristes ne se donnent plus la peine de monter dans un avion pour effrayer le monde. 50 années ont passé et Johnny Hallyday, cette fois-ci, a été définitivement enlevé. Aucune rançon possible. Pour le pape, en revanche, c'est une autre paire de manches. De vrais criminels, cette fois-ci vêtus parfois d'une soutane, des pédocriminels ont commis l'irréparable. Pour ce rapt, ce kidnapping de l'innocence, il n'est pas de rançon. On parle d'indemnisation. Comment trouver tout cet argent ? 50 années ont passé et le franc ayant été multiplié par 6, on pourrait demander, comme dans le film de Claude Lelouch, à tous les pratiquants une participation de 1 euro. On pourrait vendre quelques abbayes dans lesquelles la seule prière qu'on entend est la voix des courants d'air. Vendre le trésor de Notre-Dame. Mettre aux enchères le Mont-Saint-Michel, dont on pourrait faire fondre l'archange. Derrière le ridicule, Aristide sent monter en lui une triste mélancolie. Il aimerait, mais il ne peut pas, sur le visage de l'enfant, essuyer cette larme et lui dire de ne pas pleurer, parce que c'est du cinéma. Parce que malheureusement, ce n'est pas du cinéma. Lâche, Aristide se repasse le film de Claude Lelouch avec des frimeurs magnifiques qui en font des tonnes de très grosses bêtises pour de faux.
Johnny Hallyday et la BO du film de Claude Lelouch. Vous écoutez Culture 5, le magazine de la rédaction de balado-gazette.fr. Laissez-moi maintenant vous présenter Elisabeth Catala, une femme de lettres et de mots. Tante Elisabeth, que nous racontez-vous aujourd'hui ?
C'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon chapeau.
Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du chapeau.
Dernier étage de ma coquetterie, c'est le soulier de mon cerveau.
Le chapeau, aujourd'hui accessoire de mode autant qu'objet utile, a été au cours des siècles une pièce essentielle de la tenue vestimentaire des hommes et des femmes, qui était souvent liée au statut social. La sociologue Evelyn Sullro rapporte dans l'un de ses livres la réponse d'une mère à qui sa fille demandait dans la rue « T'as vu la dame maman là-bas ?»« Bah, c'est pas une dame ma chérie, elle ne porte pas de chapeau. » En effet, dans les années 50, aucune dame ne sortait sans chapeau. Elle se distinguait de cette façon des ouvrières qui, elles, sortaient dans la rue en chevelure. Les dames entraient également à l'église, la tête couverte d'un chapeau ou d'un foulard, alors que les hommes se découvraient en y entrant et restaient tête nue pendant toute la durée d'un office ou d'une cérémonie.
C'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon chapeau.
Faisons un peu d'étymologie.
Allons-y.
Le mot chapeau vient du bas latin capa avec deux p. C'est un manteau à capuchon qui est issu du latin caput, qui a donné chef au sens de tête. Et on peut noter ici que le couvre-chef n'est pas porté uniquement par des chefs. L'un des antécédents du chapeau est le bonnet phrygien, originaire d'Asie mineure, qui, devenu symbole de la liberté, est l'un des attributs de Marianne. Au XVIIIe siècle, dans le Briançonnais, les précepteurs qui parcouraient la campagne à la recherche d'élèves à instruire se distinguaient au nombre de plumes, figurez-vous, dont ils ornaient leur chapeau. Une plume signifiait qu'ils savaient apprendre à lire aux enfants, et deux, qu'ils pouvaient aussi leur apprendre à compter.
C'est beau, travail de leurs yeux, les sceaux, travail de leur langue.
Le chapeau que portaient les femmes au XIXe et XXe siècle avait pour nom canotier, chapeau qui était porté également par les hommes, mais celui des femmes s'en distinguait parce qu'il était ceinturé d'un ruban noir ou d'une voilette, tendu quelquefois d'un voile de soie ou de dentelle. Il y avait aussi la capeline, garnie de fleurs, de plumes, parfois d'une voilette, très à la mode dans les années 20 et qui a connu dans les années 50 un regain de succès. Le chapeau cloche, petit chapeau rond qui tombait tout autour de la tête, a été très en vogue dans les années 30. Ce qui est amusant comme tout, c'est que la façon dont était noué le ruban autour du chapeau était un révélateur de la situation maritale de la femme qui le portait. Quand elle était mariée, il y avait un nœud au centre. Quand elle était veuve ou divorcée, c'était une cocarde. Et quand c'était un cœur à prendre, une célibataire, le nœud était en flèche.
Moi, je cherche mon galurin, mon chapeau des jours anciens.
Et il y avait aussi le bibi, tout petit chapeau, porté sur le sommet de la tête, maintenu à l'aide d'une épingle et orné comme la capeline de plumes, de fleurs, de bijoux et parfois d'une voilette. De leur côté, les hommes portaient, selon les circonstances et selon aussi leur statut social, soit un chapeau melon, qu'on associe évidemment au personnage de Charlot, soit un haut de forme, un claque, un panama, un feutre, un sombrero, un borsalino, un bicorne et un tricorne, par exemple.
C'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon chapeau.
Les étudiants ont porté une faluche à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et les élèves de l'école polytechnique ont vu le bicorne de leur uniforme remplacer le traditionnel tricorne juste après la Révolution. La casquette était au départ le nom du képi des officiers de l'armée d'Afrique. As-tu vu la casquette, la casquette? As-tu vu la casquette du père Bugeaud? C'est ce qu'on entend dans la marche des zouaves français. Puis par métonymie, la casquette est devenue l'emblème de la condition ouvrière, avec la baguette de pain, n'est-ce pas? Dans le jargon des cyclistes, elle s'appelle gapette.
Il nous reste à parler d'un chapeau qui n'a pas de sens,
oui.
C'est...
Mais c'est le béret. L'usage du béret, du gascon béret avec deux R, d'abord porté par les Béarnais, s'est généralisé. Il a été porté par les chasseurs alpins, puis par les membres de différents corps d'armée, comme celui des parachutistes. Ensuite, il est devenu, comme la casquette, un des symboles emblématiques du français. Mais il n'y a pas que les Français qui portaient la casquette. Rembrandt, Quentin de la Tour, Monet l'avaient adopté et ont fait leur autoportrait coiffé d'un béret. Albert Camus, Che Guevara et bien d'autres personnalités en portaient également un.
Merci, Elisabeth.
C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai retrouvé mon chapeau. Dernier étage de ma coquetterie. C'est le soulier de...
C'était Elisabeth Catala et le chapeau de Guy Béard. La prochaine fois, tante Elisabeth explorera les nuages. Et pour terminer ce Culture 5, je vous propose d'écouter la capsule de jazz de Johan Lefèvre. Bonjour Johan Lefèvre.
Bonjour Bernard.
Dans la dernière capsule, vous nous avez parlé de Dave Brubeck, de sa formation classique et de ses rythmes impairs. Aujourd'hui, on va parler de
Bill Evans,
qui lui aussi a sa formation de musicien classique, mais qui lui va moins jouer sur le rythme et plutôt sur les harmonies. Dites-nous-en un peu plus.
Bill Evans est un compositeur et pianiste qui a travaillé dans les mêmes années que Dave Brubeck à New York. Autant vous dire que New York à l'époque, dans ces années-là, dans les années 50, c'était vraiment l'endroit où il fallait être, où tout se créait artistiquement. Et donc, au lieu, lui, de partir sur le côté rythmique de la musique de jazz, il s'est vraiment penché sur l'harmonie. Et à l'époque, un très grand batteur, percussionniste, pianiste qui s'appelle George Russell avait théorisé le concept lydien chromatique.
Le concept quoi ?
Le concept lydien chromatique.
En deux mots ?
En deux mots, c'est une façon d'entrevoir les modes, les gammes avec des intervalles plus tendus entre les notes.
Un exemple vite fait ?
La gamme majeure. Do, ré, mi, fa, sol. Le mode lydien. Do, ré, mi, fa, sol. Le fa est augmenté d'un demi-ton et va vers le sol.
D'accord.
On détourne les centres tonaux.
Bien, tonaux qu'on écrit.
Pas comme le vin. En faisant cette rencontre, Bill Evans se met à chercher comment harmoniser sur son piano. Et étonnamment, quand on écoute sa façon de jouer, on se rappelle des grands compositeurs comme Chopin. On peut aussi penser à Fauré, à Debussy et à Ravel, qui étaient justement dans la recherche dans les années un petit peu plus tôt que les années 50, hein, c'était fin 19e, début 20e, de nouvelles couleurs mélodiques et harmoniques pour pouvoir faire avancer la musique classique.
D'accord.
Bill Evans, par exemple, a fait partie du groupe qui travaillait avec George Russell, mais avec Gil Evans, avec Miles Davis, autour de l'album Kind of Blue, puisqu'il a fait partie de l'équipe qui a permis à cet album de sonner d'une manière différente.
L'album quoi ?
Kind of Blue, c'est un album de Miles Davis qui a vraiment ancré une autre couleur de son dans le monde du jazz dans les années 59. Et puis plus tard, donc, il quitte assez rapidement Miles Davis qui, comme tout le monde le sait, lui a volé des compositions finalement.
Tiens,
il a signé Miles des morceaux qu'on peut quand même penser que c'est Bill Evans qui les a créés. Par exemple, écouter So What ou écouter Blue and Green, on reconnaît tout de suite la couleur de son de Bill Evans, pourtant ils sont signés chez Miles Davis.
Bon.
Sans doute un arrangement entre eux financier.
Entre deux rails de coke, on
voilà,
s'arrange.
Voilà, c'est ça, exactement. À la suite de tout ça, Bill Evans crée son propre trio, avec le contrebassiste Scott LaFaro et le batteur Paul Mossian. Et là, il rejoue tous les standards de l'histoire du jazz avec cette façon tout à fait à lui d'harmoniser les standards, des mélodies simples harmonisées avec des accords très tendus, avec des couleurs tout à fait incroyables, qui a fait les lettres de noblesse de ce grand pianiste. Une des compositions incroyables de Bill Evans, c'est la valse for Debbie. Écoutez-la et vous essayez d'écouter les nocturnes de Chopin après. vous entendrez comment c'est proche.
C'est exactement ce que l'on va faire. Merci, Johan Lefebvre. À très vite.
À très vite, Bernard. Merci.
Et oui, nous procédons tous et toutes de ceux qui nous ont précédés. Culture 5, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jeff, Hervé, Tante Elisabeth et Johan Lefebvre. On se retrouve vendredi prochain sans faute, mais quand vous voulez, sur balado-gazette.fr. Bonne écoute et à ciao.